Laurent Bouvet, je vous salue et je suis heureux de vous retrouver quelques années plus tard. Il y a un petit moment, nous avions parlé de votre,
c'était en 2008,
votre vie en 2008, voilà. De ce projet fou, un peu fou quand même, de reconstruire Saint-Cloud. Mais vous allez nous démontrer que c'est pas si fou que ça. Mais je me mets à la place évidemment de la personne qui entend ça, qui découvre ça, qui ne sait peut-être pas ce que vous faites depuis près d'une dizaine d'années. Bref, vous cherchez à reconstruire le château de Saint-Cloud, disparu au moment de la guerre de 1870.
Absolument.
Puisqu'il a brûlé, je crois.
Voilà.
Et évidemment... ça paraît pas très raisonnable quand même tout ça. Bon, alors qu'est-ce qui, au bout de près de 10 années là de travail, où en êtes-vous? Vous
alors,
avez la parole.
Tout d'abord, vous auriez pu trouver une excellente transition avec l'intervenant précédent, puisque Pierre le Grand, c'est-à-dire Pierre Ier de Russie, est venu au château de Saint-Cloud où il a été reçu lorsqu'il est venu en France. Voilà, je vous le dis. D'accord. Et d'ailleurs, ça n'est pas le seul souverain étranger ou la seule personnalité étrangère de premier plan à être venu au château de Saint-Cloud. Ça renforce d'ailleurs l'importance du château de Saint-Cloud. On pourrait citer aussi le futur président des États-Unis, Benjamin Franklin. On pourrait citer la reine Victoria, l'émir Abdelkader. Donc tous ces gens sont venus au château de Saint-Cloud.
C'est une maison royale. Hein.
Voilà, qui avait de ce fait un rayonnement international. Et c'est pour ça que sa disparition est d'autant plus préjudiciable, surtout qu'il s'agit du château qui, s'il existait encore, serait le plus proche de Paris. En gros, il serait 3 à 4 fois plus proche que
cette
celui de Versailles.
Pour voilà. Les auditeurs qui ne situent pas forcément Saint-Cloud, en province, hein, on est juste à l'ouest de Paris.
Voilà, on a
sur une colline,
5 km de
Seine.
Voilà, à 5 km de Paris.
C'est extraordinaire,
voilà.
C'est un site très beau. Il suffit de s'y rendre d'ailleurs pour s'en rendre compte, c'est vraiment magnifique. Il y a un très beau parc, toujours 500 hectares.
Voilà.
Et j'invite aussi les gens à aller voir votre site.
Ah oui,
site
c'est gentil.
Un site internet qui est très bien fait.
Oui, oui, oui.
En tapant simplement reconstruisons.
Remarquable.
Remarquable. Et vous avez mis notamment un certain nombre de photos d'époque.
Oui, 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 qu'on a retravaillé avec Photoshop et c'est pour ça qu'elles sont d'excellente qualité.
Photos après l'incendie.
Oui.
Qui nous éclaire évidemment beaucoup sur l'état du château et surtout qui nous fait regretter qu'il n'ait pas choisi de le
reconstruire. Oui, oui.
Au fond, c'était une coquille vide, mais enfin
voilà.
Une coquille quand même.
Voilà, une coquille quand même. Bon.
Saint-Pétersbourg, il vous l'aurait fait.
Alors, vous avez commencé par dire que c'est un projet fou. Je tiens à relativiser. C'est un projet fou pour nous autres Français. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une école de pensée qui prévaut et qui fait qu'au demeurant, on ne reconstruit pas les monuments historiques disparus. Sauf ceux qui viennent de disparaître, comme par exemple le Parlement de Rennes en Bretagne lorsqu'il a brûlé une 20aine d'années, le château de Lunéville en Lorraine lorsqu'il a brûlé il y a 12aine d'années. À ce moment-là, il se produit un choc émotionnel au sein de l'opinion publique qui fait que les pouvoirs publics n'ont pas d'autre choix que de reconstruire.
Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, quoi.
Voilà,
du patrimoine et du...
Voilà, c'est ça. Et il faut savoir par ailleurs que cette école de pensée qui prévaut aujourd'hui n'a pas toujours prévalu, notamment au 19e siècle, puisque du temps de Napoléon III, Viollet-le-Duc a relevé de leur ruine beaucoup de bâtiments, que ce soit le château de Pierrefonds, la citadelle de Carcassonne, Saint-Malo, qui d'ailleurs a été reconstruit une nouvelle fois après la Seconde Guerre mondiale. Donc, bon, on peut dire que la charte de Venise a un peu figé les choses à regret, et c'est tout à fait dommage. Donc, le combat que notre association mène depuis près de 10 ans maintenant est un combat à long terme. Et nous ramons à contre-courant, dans la mesure où précisément nous sommes obligés d'aller à l'encontre de ce courant de pensée qui prévaut essentiellement d'ailleurs au sein des hauts fonctionnaires du ministère de la Culture et de certains historiens d'art français. Bon, le grand public, évidemment, n'est pas du tout sur cette ligne, mais les décideurs, qui sont particulièrement représentés dans ce ministère de la Culture, ne sont pas favorables à notre projet. Donc, il nous faut créer une mobilisation afin d'inverser le cours des choses. Et c'est justement toute la difficulté, et c'est pourquoi nous menons une importante entreprise de lobbying, n'ayons pas peur des mots, bon, mais du lobbying dans le bon sens du terme.
Pierre, vous savez ce qui se passe hein, quand on dit un mot anglais.
Ah oui, pardon, excusez-moi, mais je la mettrai bien volontiers. D'accord.
Ça va pour cette fois.
Je ne sais pas quel terme français employer. D'accord. Et voilà, groupe de pression. Bon, donc pour faire bouger les choses, donc on a entamé une campagne de presse qui se poursuit aujourd'hui même, d'ailleurs, et laquelle a pour fonction d'informer le grand public de nos intentions. Alors, justement, il y a quelque chose de très important, c'est que nous ne demandons pas d'argent public. La reconstruction du château de Saint-Cloud s'effectuerait uniquement grâce à des fonds privés.
Oui.
Et le modèle économique que nous préconisons est celui de la reconstruction dans le cadre d'un chantier autofinancé par les entrées payantes des visiteurs, comme la Sagrada Familia de Barcelone, la frégate l'Hermione à Rochefort qui vient de prendre la mer, et le château fort de Guédelon dans l'Yonne. Donc c'est pour...
Vous n'êtes pas tout seul, quoi.
Voilà, alors c'est pour, si vous voulez, prévenir un certain nombre d'arguments du type « mais l'État n'a plus d'argent » ou « mieux vaut reconstruire ce qui... mieux vaut entretenir ou restaurer ce qui existe déjà plutôt que de reconstruire ce qui n'existe plus ». Bon, en l'occurrence, si vous voulez, les flux financiers qui servent à restaurer les monuments existants et les flux financiers qui serviraient à reconstruire le château de Saint-Cloud sont des flux financiers tout à fait distincts et on ne peut pas
tout mélanger.
Voilà,
tout
on ne peut pas les mélanger. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'on a construit la frégate l'Hermione ou le château fort de Guédelon dans l'Yonne qu'on a asséché pour autant les caisses des monuments historiques, etc. Concernant d'ailleurs ceux qui usent et abusent de cet argument, je suis toujours très surpris qu'ils ne le fassent pas valoir dès lors qu'on construit un bâtiment moderne. Alors les bâtiments modernes, ça va du centre Georges Pompidou à la nouvelle philharmonie de Jean Nouvel, porte de la Villette, comme si ces bâtiments n'avaient pas vocation eux aussi à être du patrimoine. Ce sont des bâtiments qui sont construits avec des fonds publics, qui valent plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui n'est pas rien, qui vont nécessiter ensuite des frais de fonctionnement importants parce qu'il va falloir payer du personnel, ça va être des fonctionnaires, etc. Donc c'est loin d'être neutre pour les finances publiques. Or c'est curieux, à ce moment-là, il n'y a aucune levée de bouclier de ces gens-là et comme si la Philharmonie de Paris ou le musée des arts premiers qu'est Branly, construit par Jean Nouvel également, la très grande bibliothèque dans le 13e arrondissement, tout ça n'était pas également des monuments à part entière.
Bon. Quels sont les derniers points les plus encourageants dans votre projet ?
Alors, les derniers points les plus encourageants, justement, nous avons suscité l'intérêt de l'atelier Cosse, qui est l'architecte du Ritz et du Cheval Blanc de Courchevel. Pour information, le Cheval Blanc de Courchevel, c'est l'hôtel de Bernard Arnault, président du groupe LVMH, qui nous a fait toute une étude architecturale présente sur notre site internet. Et nous, ce que nous préconisons, c'est au-dessus des pièces de réception qui seraient recréées à l'identique, à savoir au rez-de-chaussée et au premier étage, de mettre dans les étages supérieurs, qui dès l'origine n'étaient que des chambres destinées à loger les nombreux invités, d'installer un hôtel avec un restaurant gastronomique, des salles de conférences, etc., et de faire en sorte une espèce de relais des châteaux dans le parc de Saint-Cloud. Alors, je tiens à préciser que pour certains, c'est presque un scandale, pour ne pas dire un blasphème, mais il faut se souvenir que en Espagne, voilà près d'un siècle, le roi Alphonse XIII a créé les paradors, et que ça ne pose aucune difficulté.
À Fontainebleau, je crois qu'il y a des choses aussi comme ça.
Alors justement, là aussi, il y a une certaine évolution au sein, voilà, une évolution des mentalités au sein du ministère de la Culture, puisque le ministère de la Culture n'a plus d'argent. Se dit qu'on pourrait tout à fait rentabiliser un certain nombre de monuments historiques en y installant un hébergement de qualité. Voilà.
Alors, avant d'être plus technique, oui. Pratique, je voudrais revenir à vous, Laurent Bouvet, parce que vous êtes quand même un personnage intéressant et vous êtes vraiment l'artisan de tout ça. Pourquoi Saint-Cloud et comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de Saint-Cloud et comment est-ce que vous vivez au quotidien dans ce château? Parce qu'au fond, vous y vivez. Je suis sûr que vous connaissez le plan à peu près par cœur, que vous en rêvez peut-être même la nuit, vous vous promenez dedans. Enfin, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vivez personnellement. Pardon si je suis un peu, si je vous pose des questions un peu personnelles là, mais je crois qu'il serait intéressant de nous en dire un peu sur vous et sur votre découverte de ce château.
Alors, en réalité, je ne suis pas parti de Saint-Cloud, mais au contraire, j'ai abouti à Saint-Cloud, en ce sens que c'est en voyant à la télévision des reportages sur la construction du château fort de Guédelon dans l'Yonne, oui, que je me suis rendu compte qu'on pouvait, sans le moindre investissement préalable, construire de toutes pièces un château qui, en l'occurrence, n'avait jamais existé, parce que Guédelon, c'est une création ex nihilo. Alors justement, je me suis dit, mais
le mode des châteaux,
oui, bien sûr,
des Tuileries d'ailleurs.
D'abord, il n'y en a pas 36 autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, 36 autres qu'on puisse reconstruire.
C'est ça.
Voilà, voilà. Parce que la plupart du temps, le terrain n'existe plus. Quand le château a eu brûlé, parce que souvent il brûlait, on a rasé les ruines et ensuite on a loti le parc. C'est ce qui s'est passé par exemple pour le château de Neuilly, le château du Rhincy, etc.
Oui,
donc
oui,
on va pas
de petits châteaux,
on va pas démolir la ville du Rhincy ou démolir la ville de Neuilly.
Il y a Marly qui est un très beau site,
voilà,
préservé.
Donc en fait, il y a essentiellement trois ou quatre sites dans la région Île-de-France qu'on pourrait reconstruire. Il y a Saint-Cloud, il y a les Tuileries, il y a Marly, il y a Meudon. Voilà. Saint-Cloud, à mon sens, est le plus intéressant parce que, d'une part, il n'y a plus rien. Bon, alors que les Tuileries, il y a quand même tout le Louvre, c'est-à-dire que ça formait un ensemble homogène dont il reste aujourd'hui tout de même environ 90%. Donc c'est pas en y ajoutant.
Il en a été sérieusement question.
Oui. Donc c'est pas en y ajoutant 10% de plus que ça va tout changer. Bon. En revanche, Saint-Cloud, qui est sur l'axe Paris-Versailles, qui est l'axe le plus touristique du monde, qui est desservi par le train, le tramway, le bus et le métro, ainsi que l'autoroute, qui a conservé son entier parc, et un cas particulièrement intéressant, qui justifie à mon sens cet investissement consistant à reconstruire ce château. Alors justement, à partir de...
Il y a une fibre un peu royaliste chez vous, pardon.
Non.
Politique.
Ah, non. Alors absolument pas, que les choses soient très claires.
Non.
C'est pas une tare, mais notre association est tout à fait apolitique. Il n'y a aucune connotation monarchiste ou monarchique. Notre action est purement patrimoniale.
Ça va peut-être l'histoire de Saint-Cloud, mais en quelques mots, simplement. Bon, c'est au départ,
Oui, on peut. C'est vrai que les trois dynasties sont concernées. Au départ, les Orléans, puis après la
légitimité. Frère de Louis XIV.
Voilà, frère de Louis XIV. Après la légitimité au travers de Louis XVI et Marie-Antoinette qui rachètent le château en 1784.
Ils passent leur dernier jour de liberté, un peu. Hein. Les dernières Pâques, je crois.
Non, ils ont voulu aller faire leur Pâques à Saint-Cloud et ils en ont été empêchés, effectivement.
Marie-Antoinette aimait beaucoup Saint-Cloud.
Oui. Bon, alors après, Napoléon Ier, donc les Bonaparte, puis à la Restauration, Louis XVIII et Charles X, donc à nouveau la légitimité, puis Louis-Philippe, donc les Orléans.
C'est l'histoire quand même, hein, c'est pas n'importe quel endroit.
Absolument, oui. Donc c'est d'autant plus dommage que ce château est disparu. Il a été le lieu de différents... page de l'histoire de France, notamment le coup d'état du 18 Brumaire de Bonaparte qui s'est pour partie déroulé à Saint-Cloud. C'est le lieu où Charles X a signé les ordonnances qui ont conduit à la révolution de 1830 ayant entraîné sa chute. C'est également le lieu où Napoléon III a signé la déclaration de guerre à la Prusse, laquelle a l'a conduit à sa perte. Voilà. Alors, oui. Autre chose, nous avons, à partir de l'étude architecturale de l'atelier Écosse, fait réaliser un chiffrage moyen de 185 millions d'euros.
185 millions.
Voilà. Ce qui est très peu, parce que pour vous donner...
Quelle est la superficie du bâtiment ?
En tout, 14 000 mètres carrés. Ce qui ferait, si on fait une comparaison avec la rénovation du Peninsula, qui est le palace de l'avenue Kléber, qui a ouvert ses portes l'été dernier, c'est 430 millions d'euros, la rénovation du Peninsula, auquel s'ajoutent les 500 millions qu'il a fallu investir pour racheter les bâtiments, ce qui fait au total un projet environ 1 milliard d'euros. Bon,
Oui, là c'est presque modeste finalement.
Bah, c'est pas excessif.
On est frappé quand on va sur le site de voir que c'est pas un endroit immense.
Non, c'était pas un château.
Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que en fait c'est pas si grand que ça? Bon, vous dites 14 000 mètres carrés, mais
14 000 mètres carrés si on inclut des parkings souterrains qui pourraient être aménagés, comme par exemple au Louvre, dans le Grand Louvre, où il y a des parkings.
Parce que quand on se rend sur place, les fondations existent toujours. Hein,
oui, ça représente 25% du bâtiment en termes de volume ou de coût financier.
C'est important.
Oui, absolument. Alors justement, en ce moment même, on reconstruit depuis 2 ans le château de Berlin. Et pour nous, c'est un facteur qui pourrait être décisif, parce que dès lors que cette information sera connue de l'opinion publique française, elle pourrait se dire, nous aussi, pourquoi ne reconstruirions-nous pas un monument historique disparu ?
C'est moins symbolique.
Oui, mais enfin bon, si vous voulez, ça éviterait aux gens de dire, comme beaucoup le font, c'est un projet fou.
Je suis frappé, Laurent Bouvet, de voir à quel point les gens connaissent pas très bien le château de Saint-Cloud.
Absolument, oui, bien sûr.
Moi, je sais pas, vous avez eu la même réaction que moi.
Bien
souvent,
sûr.
Les gens disent, ah bon, le château, les gens ont oublié qu'il y avait un château là.
Oui, et justement.
Et donc, c'est quand même un peu abstrait pour eux. Hein. Quelque chose de connu.
C'est pour ça que sa disparition est préjudiciable et que sa reconstruction permettrait, même aux habitants de la ville de Saint-Cloud, de savoir qu'il y avait un château, parce que beaucoup d'habitants de la ville de Saint-Cloud ignorent qu'à Saint-Cloud il y avait un château.
C'est très étonnant.
Alors c'est quand même, moi je veux bien que on ne le reconstruise pas pour X ou Y raison, mais enfin c'est quand même tout à fait dommage, surtout que ça permettrait de créer un nouveau site touristique dans la région Île-de-France, permettant d'accueillir chaque année plusieurs millions de visiteurs, ce qui, sur un plan économique, me paraîtrait particulièrement opportun.
Messieurs, il reste 2 minutes. Jean-Bernard, vous avez une question à poser?
Oui, je citerai l'exemple de tous les châteaux des environs de Saint-Pétersbourg qui ont été entièrement détruits. Il restait les murs, certes, mais il y a les photos, il n'y a plus rien. Quoi.
La chambre d'ambre, d'ailleurs, qui a été...
C'est la plus belle réussite. Enfin, les châteaux eux-mêmes sont déjà...
Oui. Et ce n'est pas une pâle copie, comme d'aucuns le prétendent.
Oh, pas du tout.
Très peu de temps, Laurent Bouvet, pour conclure. Qu'est-ce qui vous encourage le plus, là, à l'heure actuelle? Est-ce que vous sentez que... Il y a quelque chose qui peut faire vraiment basculer votre projet dans le concret?
Bon, écoutez, moi je veux pas me livrer à une analyse non, je veux pas me livrer à une analyse politique. Bon, on a reçu un assez bon accueil, aussi bien des partis de gauche que des partis de droite, etc. Bon, je sais pas si François Hollande, parce que finalement la décision remonterait à lui pour un projet aussi important, accepterait à 2 ans de l'élection présidentielle.
Faut que vous ayez le président de la République avec vous, quoi.
Bah, le parc de Saint-Cloud appartenant à l'État, il semblerait que je vois pas comment on pourrait reconstruire le château de Saint-Cloud dans le dos du chef de l'État. Vous voyez, c'est pas vraisemblable. Donc, alors j'ai déjà été reçu 2 fois au palais de l'Élysée, comme vous le verrez sur notre site internet. D'autre part,
si Il y a un intérêt.
Sur ce site internet, vous verrez un très beau film 3D permettant de faire tout le tour du château.
Merci Laurent Bouvet. On retrouvera tout ça sur votre site, donc Reconstruisons Saint-Cloud. Merci à vous tous. Merci Jean-Bernard Cavaud-Astry. Merci Joël Miquel. On se retrouve dans 4 semaines. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal Propos d'atelier, créé par Philippe Lejeune et dirigé par Maximilien Choussy, diffusé en direct mardi 12 mai 2015 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, mercredi 13 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.